Bienvenue à la French Connection, épisode spécial sur les applications de tracking associées au COVID-19. Cet épisode spécial est enregistré devant public, virtuel. Bon. Et je suis avec Damien.
Hello!
Richer.
Salut!
Vincent.
Yo!
Steve.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et l'incontournable Patrick.
Oh yeah!
Hello!
On est vraiment un full crew ce soir, ça va être encore plus épique comme conversation. No shameless plug, lavez-vous les mains, de toute façon COVID, lavez-vous les mains. Ternez pas dans la face à quelqu'un, s'il vous plaît. Puis mettez un masque, s'il vous plaît. Arrêtez de... l'analogie d'aller pisser sur le pantalon de l'autre, c'est valide. Donc, bref, commençons dans le vif du sujet.
Depuis la dernière... Faire pipi sur quelqu'un.
Ouais, c'est ça. T'as le droit, mais pas sur moi, s'il vous plaît. De toute façon, t'es confiné à Montréal, fait que dans l'île,
ils vont fermer les ponts, ce sera pas là.
Oui. Mettons. Donc, bref, commençons sur le fait que depuis, les derniers mois, on a vu énormément de pays qui ont mis en place, soit certains des pays les plus totalitaires qui ont mis des mesures de tracking très, qu'on pourrait dire efficaces jusqu'à un certain point. Les pays plus démocratiques sont plus gênés de ça. Il y a des pays qui l'ont fait puis qui sont retractés. Il y a des plein de monde qui développe des applications. T'as Apple et Google qui ont fait une alliance temporaire, mettons, pour développer une application. On s'appuie beaucoup sur le Bluetooth. Il y en a qui c'est le GPS, il y en a qui c'est le cellulaire, il y en a qui c'est le fait. On développe leur propre protocole. Il y en a qui se pensent meilleurs que les autres, fait qu'ils réinventent un autre protocole. Donc, on est trop dans un univers assez, assez funky et où les individus comme nous qui, d'un côté, veulent participer à l'effort de santé publique, mais en même temps, ils ne veulent pas sacrifier leur vie privée en conséquence. On est comme contraints. Fait que là, je veux lancer la balle, messieurs, et lancez-vous dans l'arène plein de boue.
Alors, je vais commencer, si ça vous intéresse, les copains. Je vais m'attaquer parce que, en fait, ça vous intéresse. Bon, ben Patrick n'est pas encore bourré, donc il a dit que ça l'intéressait un tout petit peu. Donc, allons-y. Non, en fait, je voulais commencer parce que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les applications qui ont communiqué un peu partout dans le monde. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est comme ça que je vais allumer un petit peu le feu. C'est fou furieux. Si je prends juste le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ils en ont analysé une trentaine. En tout et pour tout, sur toute la planète, en prenant tous les articles, je suis à 192 applications. Ça va des applications étatiques, en passant par des entreprises privées qui ont senti le bon plan du brevet, qui vont peut-être vendre dans quelques mois, quelques années, et puis des entreprises XY qui se sont dit « tiens, on va lancer notre petite idée » en prenant tout et n'importe quoi. Alors, je vais lancer le feu. Est-ce que cette histoire d'application n'est pas juste une histoire de business?
Subvention, c'est clair. Pas business, juste subvention. Mais en fait, moi, j'aime énormément la quote de Bruce Schneier qui résume ça en tant que le monde en TI avait tellement rien à faire, ne savait pas quoi faire, qui se sont trouvés un projet puis ont décidé de faire ça. C'est quoi la phrase? C'est pas parce que tu peux que tu devrais? Ouais. C'est pas mal ça le résumé de notre rencontre d'aujourd'hui, je pense. Mais
c'est, hey, tu dévoiles le punch en partant, là, ça tue, là.
Goddammit. Non, mais c'est plate. Mais c'est ça.
Ouais. Et quand on voit, moi, c'est juste vous parler des applications qui ont fait des bugs ou qui étaient complètement nazes. Il y en a une aux Pays-Bas, par exemple, qui a été lancée et proposée en démonstration et en test. Et au bout d'un quart d'heure, des gens se sont rendus compte qu'en fait, le code contenait 200 identités avec des logins et des mots de passe, certes hachés, parce que les gars avaient pris un code source appartenant à quelqu'un d'autre. On a aussi en France, Cocorico, pourquoi les Français ne feraient pas aussi un truc rigolo? On a une application qui est dédiée uniquement pour se plaindre de l'amende qu'on a pu attraper d'un policier parce qu'on est sorti sans avoir autorisation. Eh bien, on a un avocat, eh oui, qui se dit « Tiens, je vais lancer mon application dédiée pour se plaindre de l'amende. » Bon, ça coûte 20 € pour se plaindre. Après, on a aussi une société, alors là, c'est en Afrique, c'est en Guinée. Et une société a sorti son application, sauf que toutes les données passent hors HTTPS. Donc, du coup, c'est du HTTP, c'est lecture open bar. Et une note qui dit « Bah tiens, on va pouvoir vous suivre directement sur un GPS. » Donc voilà, comme tu dis, Patrick, et je pense que tout le monde va dire pareil, etc., avec en plus vos connaissances techniques, tout le monde s'est jeté dans un business, tout le monde s'est jeté dans un délire un petit peu fou furieux, Et puis derrière, on a nos États, nos hommes politiques qui ont tenté de se raccrocher avec, qu'on le veuille ou non, quelques petites pressions politiques qui restent universitaires, qui sont loin d'être négligeables.
Damien, je te dirais, c'est des pressions aussi populaires parce que les gens et les décideurs, je veux dire, ils étaient en absence de référence, ils étaient en absence de plan. Tout le monde était dans le vide. Et en absence de ligne directrice, les gens vont s'imaginer des choses et il y avait besoin justement de retrouver un sens d'organisation de quel qu'il soit. Puis comme j'en reparlais avec Patrick, je veux dire, ils ont besoin de cette application-là et ils se sont retournés justement vers la communauté pour aller chercher, hey, programmez-nous quelque chose, donnez-nous un sens. Et ça a donné ça, ça a donné que les gouvernements ils peuvent à ce moment-là surveiller ce qui en est, sont rendus les attroupements pour être capables de déterminer si encore là, trop de monde se rassemble en même temps à la même place. Et c'est là que va aller aussi notre discussion ce soir. Est-ce que ça en devient un outil permanent pour faire la gestion de la société?
Mais de toute façon, on a juste les journalistes qui vont aller prendre des photos sur le plateau de Montréal pour savoir qu'il y a trop de monde qui sont ensemble. Fait qu'on n'a même pas besoin de cette surveillance-là. Les journalistes sont capables de faire la job eux-mêmes, de toute ouais. façon.
Ouais, ouais, exact. J'aime un des points sur le chat. Mais qui parle de Mila, justement, par rapport au budget, au concept de business, disant que Mila, l'application, l'OBNL du Québec qui développe l'application. En fait, OBNL, oui, mais ultra subventionné par le gouvernement. Et on a des scopes par en arrière de ça qu'on peut pas vraiment dévoiler tout de suite, qui montrent où c'est que l'argent transgèse et d'où c'est qu'elle provient. Et dites-vous que OBNL ou pas, il y en a de l'argent, puis ils savent que ça s'en va dans leur poche, même si c'est pas la poche de Mila. C'est vraiment pas super.
Dans tous les cas, hein, pour finir, sur l'aspect un peu rigolote des applications parties complètement folles, moi je propose aux futurs créateurs de rajouter maintenant aussi un petit bouton. Je viens de voir quelqu'un jeter son masque ou ses gants par terre.
La partie écologique, là, pourquoi ça a été oublié tout ça? D'habitude, il y a toujours quelqu'un qui parle verdure dans les développements, t'as raison.
Ben, il commence à en parler beaucoup juste parce que, je veux dire, il y a moins de gaz utilisé, l'atmosphère se tient mieux, mais à part ça, ouais, le peuple en général, disons que on n'est pas super avec nos gants, nos masques dans les rues et toutes ces cochonneries-là, ouais.
Pour répondre à Steve à propos de la destruction des données, en France, les données seront gardées 15 jours et à Alberta, leur application qui a été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois, c'est 21 jours. Ça, c'est ce qui est annoncé, en tout cas officiellement, donc écrit noir sur blanc. Donc au moins sur ces deux aspects-là, on peut avoir confiance. Par contre, pour le reste, on n'en a aucune idée.
Ben, avoir confiance, est-ce que quelqu'un va vraiment vérifier que ces informations-là sont effacées? Parce que, tu sais, l'appétit à ce que ces données-là sont utiles à beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, on a tous vécu des moments où Facebook a changé ses règles utilisateurs. T'as coup, pouf! Ah, l'information nous tente. Maintenant, on change le contrat utilisateur. Maintenant, on collecte. Avant, on ne collectait pas. Maintenant, on collecte. Et c'est rétroactif. Fait que les informations qu'on avait avant deviennent dans le nouveau contrat utilisateur. Puis si t'es pas content, ben désabonne-toi d'une plateforme que tout le monde est dessus.
Ben, comme t'es là cette semaine, ils ont annoncé haut et fort qu'ils prennent le BI, le BU, c'est-à-dire le Business Unit appelé TELUS Insights, que c'est justement un power crunching de data, de tout ce que sa base d'abonnés font. Ils vont ils vont pouvoir la mettre en contribution dans la production d'informations envers le COVID. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça dans un contrat, comme tu dis.
Ouais, puis pas juste ça. Je veux dire, Radio-Canada a fait une analyse de toutes les déplacements via les téléphones cellulaires pendant la relâche. Ils ont obtenu ça gratuitement des compagnies de téléphone. Il n'y a rien de spécial dans ça. Puis ça a passé inaperçu, personne n'en a parlé. Très, très, très moche.
Ben effectivement, très moche, puis en même temps, on oublie que la fameuse, parce que tu parlais de TELUS, entre autres, pour Insight, tu disais oui, c'est des données anonymisées, tout ça, mais ça prend pas grand-chose, grand point de données pour réussir à retracer et à reconstruire un profil à partir de ces informations-là. Fait que techniquement, yes, on serait probablement capable de remonter quelqu'un parce qu'il y a X détails, puis pouf,
ben,
on a le profil de déplacement de quelqu'un.
Ce qu'il faut comprendre, en fait, avec les applications de tracing, c'est que ça peut pas être anonyme à 100%. C'est dans le concept de base. Anonyme à 100%, c'est que personne déclare son identité. Le concept de l'application de tracing, c'est que quand tu es infecté, tu dois te déclarer. Donc, nécessairement, en te déclarant, tu dis t'es qui, t'étais où. Et dépendant de l'algorithme qui est choisi, la majorité des algorithmes qui existent, qu'on a analysés, d'être la recherche de l'entité, finalement ton téléphone cellulaire, va aller chercher les données sur le serveur central de ta région. Donc, en étant une région très petite, tu es capable de retracer où c'est que tu as été, qui était dans la région, etc. Donc, le concept de base est brisé bord en bord. Oui, évidemment, il y a des manières de faire de et tout, là, puis on parlera plus tard de Mila et comment ils font leurs choses et les autres algorithmes, mais en gros, je veux dire, par design, le gouvernement, la compagnie qui détient les données, a accès à, et sait qui est dé-anonymisé parce qu'il faut savoir qui est malade dans le tas pour pouvoir broadcaster finalement qui a été infecté dans ta région, dans l'endroit que tu t'es promené. Mais là, quand on parle des applications en Europe et autres endroits un petit peu plus avec moins de liberté, un petit peu plus intense, ben eux, ils utilisent cette donnée-là direct. Là, je pense pas qu'ils considèrent beaucoup cette liberté de vie privée. Là.
Non, il y a certains pays qui ont imposé.
Qui est infecté pour avertir la population. Regardez, si vous avez été sur le trajet entre telle heure, telle date, rapportez-vous à Santé publique, faites-vous tester. Puis c'est ça qui est un peu fréquent parce que là, tu l'as dit, c'est la contrôle totale de la population. Excusez, j'ai coupé quelqu'un.
Non, pas de problème, Steve.
Non, c'est moi. C'est moi, Damien. C'est à mon tour. C'est lui qui m'a coupé, là. Non, mais ça va être simple, les boys. Ça va être un petit boss sur le téléphone. On ouvre Facebook, on prend une photo. Tiens, c'est lui. Ça va juste finir de même. Qu'on détruise, qu'on détienne, qu'on fasse pas attention à la façon dont on va conserver nos données. Je ne sais pas comment ils vont publier le message à l'individu. Je ne sais pas si pour que ça soit efficace, il faut que ça soit en temps réel. Mais si tout se fait a posteriori, le mal est déjà fait, si vous voulez mon avis.
C'est a posteriori parce que...
Exact.
Faut que tu aies l'information de où ce que tu as été. Ils font pas ça live à 100% parce que tu peux, la personne, ben, le COVID en tant que tel, tu peux être malade ou te rendre compte que tu as des symptômes entre 4 et 15 jours. Donc, faut qu'ils gardent les données pour au moins 2 semaines et peut-être plus, on le sait pas.
Ah, écoute, je suis d'accord.
Pour aller dans le passé, là.
Je suis d'accord avec toi, mais. Donc, mettre une application comme ça dans les poches des citoyens, ben, à ce moment-là, ça vaut pas grand-chose, si tu veux, mon avis. Je vous écoute parler, là. Tu as fait un trajet, telle journée, patate patata, il est possible que, patate patata, la personne infectée, disons que tout est anonymisé, là, puis le monde est parfait. Écoute, t'es infecté, tu t'es promené, bon, t'as fait tout un paquet d'informations, tout est fait a posteriori. Au final, le mal est fait, là. On n'a pas arrangé quelque chose, là. On a juste du meilleur data à traiter, tout simplement. Ouais, plus de monde à guérir. En fait, moi, c'est la façon dont je vois ça. Mais bon.
Mais si on parle un peu de l'efficacité, sans aller dans le détail technique du Bluetooth et autres, juste en concept de virus, le virus se transmet énormément sans symptômes. Donc, c'est pas parce que tu as l'application que nécessairement tu sais que tu as été infecté. Ça se transmet via les surfaces, donc l'application ne peut pas détecter ça. Je veux dire, l'application même, là, c'est quand elle est dans tes poches, s'il y a un mur à un pied de toi, puis il y a quelqu'un à l'autre bord du mur, puis lui est infecté, es-tu nécessairement, toi, infecté?
Bon, écoutez,
faux positif, faux négatif, faux
la façon partout. Dont je vois ça, parlons notre langage. Moi, la façon dont je vois ça, c'est du black box testing. Avec 2 semaines plus tard, des jurys comptables qui essayent de coordonner les données pour arriver à un bon résultat. Puis des belles lunettes roses, là.
Tant mieux, la grosse. Je la trouve excellente comme analogie. Puis, on parlait un peu, on embarquait un peu dans le Bluetooth, puis on disait justement cette espèce d'ouverture-là du protocole Bluetooth de façon massive sur les appareils pour arriver à ce chose-là, qui n'est pas prouvé par ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'éléments un peu controversés autour du sens du Bluetooth comme étant un moyen efficace de repérer qui t'entoure. Ça pourrait probablement ouvrir des portes sur les appareils personnels. Donc, puis vous mentionnez tantôt d'applications codées un peu rapidement, disons, qu'elles pourraient ouvrir des failles sur nos appareils parce que, dans le fond, c'est tout du Bluetooth, puis ça parle en fond, là.
Ben, quand tu dis rapidement, juste pour te dire, le sel du Québec, Mila, ils ont eu la commande, voilà, quoi, peut-être plus ou moins 2-3 mois, quelque chose comme ça. Le mois passé, ils l'ont annoncé qu'ils travaillaient là-dessus. Il n'y avait aucun code de commencer. Cette semaine, ils ont annoncé qu'ils ont recommencé le code parce que les médias ont commencé à dire que c'était tout croche. Fait qu'imagine que ce ne sont pas là pantoute, puis ils disent qu'ils vont livrer dans un mois. Une application de cette envergure-là, avec la vie privée, la sécurité, etc., en un mois, laisse-moi douter. Et puis là, on n'a pas encore parlé de qui développe l'application.
J'aimerais rajouter un truc sur ce que Nicolas vient de dire. Tu sais, je vais rajouter un truc sur ce que Nicolas vient de dire. L'élément qu'on ne sait pas, c'est ultimement, l'information va aboutir entre les mains d'un organe réglementaire. C'est quoi leurs intentions? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a 4 Suburban noirs qui vont débarquer en face de chez nous? Tu sais, les intentions derrière ça, la finalité, c'est nébuleux, là.
Bon. À date, c'est l'Université de Montréal et McGill qui en sont les détenteurs des données sous encore l'ombrelle Mila. Et encore légalement, sur papier, on s'entend, ils s'engagent à ne pas revendre, redistribuer ou quoi que ce soit avec les données. Puis une fois que l'utilisation est terminée, ils détruisent tout. Ça, c'est l'engagement qui sont commis sur toutes les plateformes qui ont été, les papiers qui ont pu écrire. À date, c'est ça.
Oui, mais il se passe quoi? Il y a un nouveau foyer à quelque part, il détecte quelque chose, il y a un problème. L'intention, c'est quel organe réglementaire qui va...
Ça remonte au gouvernement, la même chose que présentement, quand quelqu'un est infecté, ils font du tracing manuel, ça revient dans le même format, la même procédure. Le problème de ça, c'est que c'est tellement pas fiable, une application pour détecter des trucs qui se promènent de manière, asymptomatique,
oui.
Que là, ils vont tracer du monde, ils vont les isoler sans qu'il y ait aucune raison valide. Ça, c'est donc, un gros point aussi, là.
Donc, ultimement, il y a des gens, il y a des cas complètement faux positifs qui vont bénéficier d'un test gratuit, oui, qui passe dans le beurre.
S'ils peuvent le faire, le test, parce que tu sais, comme moi, c'est difficile à avoir. Puis t'en as des gens qui ont été testés positifs, ils ont fallu qu'ils mentent pour se rendre jusqu'au test. Puis effectivement, ils l'étaient, alors que tout le monde disait non, vas-y. Puis j'en connais des personnes très proches de moi qui toi, t'as fini ton chiffre, OK, va-t'en dans telle pièce, change de zone, lave rien, change rien. Il y a une façon de gérer les gens fondamentale qui est erronée, qui est vraiment malsaine, application ou pas. Là, on arrive avec la population pour lui dire, fiez-vous à l'application, déclarer que, faut pas oublier, c'est toujours déclaré volontaire qui amène l'information sur l'application. C'est jamais le service de la santé qui va venir télécharger l'information dessus puis dire, ah, vous êtes le patient X. Moi, c'est ça, je pensais au début qu'il était à avoir comme lien. C'est pas ça pantoute.
Puis l'autre problème par rapport à tous ces éléments-là, c'est, puis Damien a fait un peu de, vous avez, Damien ici, vous avez fait une référence, puis je l'ai fait dans l'intro. À l'heure actuelle, il y a tellement de monde qui développe leur propre application parce qu'ils se pensent meilleurs que tout le monde. Fait qu'on a genre une pléthore d'applications qui ne se parlent pas entre eux autres. Ils sont tous autonomes, donc ça change rien. Fait que moi, si je suis traqué avec une application X puis le voisin avec une application Y, les deux applications ne se parleront jamais. Fait que si l'autre est infecté, il ne me dira jamais que j'ai été en contact avec lui. Donc, déjà là, on a un problème de le même type d'immunité de groupe, oui, de ce genre de choses-là. Donc, puis l'adoption est très faible aussi. Puis après ça, est-ce qu'on va devoir imposer ça à 100% des gens? Est-ce qu'on va devoir se retourner vers les compagnies cellulaires pour traquer tous les gens qui sont... Puis on commence à voir un peu de ces appétits-là émerger dans les pays occidentaux, là.
Oui, parce que présentement, l'application COVID va être utilisable par 70% seulement des iPhones, parce que ça s'installe avec le framework qui est sous iOS 13.5. Puis, exemple, quelqu'un qui a un iPhone 6 qui marche très bien, peut pas même pas s'en servir. La même chose du côté Android. Je me souviens pas la version, mais ça, c'est version 6. Ils pourront pas l'utiliser en bas de ça. Fait que là, t'as une masse de téléphones qui ne pourront pas se servir s'il y en a qui veulent bien faire. Ils vont être invités à changer. Ça revient, comme tu dis, Nick, probablement, ça a donné des cellulaires une moment donné qui va enterrer là-dedans.
Puis là, tu parles même pas de l'inclusion, parce que la majorité, ben pas la majorité, mais il y a une grosse majorité qui ont juste pas de téléphone intelligent.
Exact.
Fait que ça, t'es jamais avec ça en plus.
Bon, mais moi, j'ai trouvé comme le raisonnement qu'ils ont derrière ça. Ils se disent, ceux qui ont des téléphones, c'est eux autres qui sont plus mobiles, c'est eux autres qui mettent à risque plus davantage les gens alors qu'ils se promènent. Alors que ceux qui n'en ont pas, justement, le cellulaire, généralement, sont plus statiques.
Ouais, je serais pas prêt à dire ça. Pour voir les comportements des humains autour de moi, il fait un peu soleil dehors, là, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens pas de cellulaire qui se promènent beaucoup et allègrement. Là.
C'est clair. Les plaines d'Abraham en fin de semaine vont être pleines. C'est sûr.
Ils ont été pleins la semaine dernière. Donc, et comme le plateau Montréal à Montréal, ou toutes ces zones-là de parcs urbains où les gens vont se ramasser en masse. Ouais. Et les journalistes vont prendre encore des photos. À toutes les façons, ils vont prendre des photos de gens qui ne se distancient pas.
J'aime bien l'étude. Ben, l'étude. La petite recherche qui était faite sur les photos des journalistes qui prennent une foule avec plein de monde collé. Puis là, t'as quelqu'un d'autre qui prend la même photo, mais dans un autre angle, puis tout le monde est à 10 mètres de chacun, mais avec une perspective différente, tout le monde a l'air à deux pieds.
Mais tout ça, de toute façon, c'est pour vendre des journaux, là. C'est ça, on s'en cache pas. Là,
oui, mais ça influence quand même la peur du monde, ça donne du pouvoir de plus au gouvernement et blablabla. Je ne veux pas embarquer dans un concept de propagande, mais en termes de pouvoir, c'est très utile. Puis pour aller dans cette branche-là, je pense que c'est au UK, il y a eu un document qui a leaké du gouvernement qui parle de comment faire la propagande pour que le monde prenne ça au sérieux.
Yep.
Pour inciter les discours, les médias, etc., à dire que c'est dangereux plus que ça l'est pour qu'au minimum le monde applique les règles comme il faut. L'intention est bonne, mais le résultat de ça, long terme, peut être assez mauvais, disons.
C'est un peu toxique, mais de toute façon, pensez-vous pas que la Russie s'amuse à faire de la propagande à travers ce genre de choses-là, qui sont quand même assez bons dans ce domaine-là?
Non, ni la Chine.
Si je peux me permettre, vu ce qu'on est en train de voir en ce moment, on est surtout avec des populations d'extrémistes, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, et peu importe le pays. Et le problème, c'est qu'au milieu de ces populations, on a aussi les gens qui cliquent, qui partagent, qui n'ont pas obligatoirement ce partage politique ou sociologique, mais qui se disent, ben oui, ok, tiens, ben on parle du coronavirus, ben du coup, c'est aussi la 5G. Et puis quand c'est pas la 5G, donc je pense que malheureusement, les complotistes sont tellement nombreux, on prend juste l'exemple de ceux qui ont fait croire au piratage de l'OMS, que voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de ce genre de population sur les internets que la diffusion de fake news va être du simple troll à l'intérêt économique pour celui qui la diffuse parce qu'il est un intérêt politique, par exemple. Et puis après, ceux qui croient vraiment que les extraterrestres nous ont envahis.
Ah, ils sont pas parmi nous, les extraterrestres? Là, je suis un peu flabbergasté. Là, j'étais quoi, là, tu vas détruire ma vie complètement. Tu
viens de montrer des vraies photos là, prises par un chasseur. Là. De quoi tu parles, Damien?
Bon, tout le monde est mort de rire, c'est silence. Oui, mais bref, oui, effectivement, on ramène des choses où justement au niveau de la propagation de l'information, de la manipulation de l'information. C'est un terreau très fertile dans le contexte, puisque justement, on a beaucoup de gens qui s'inquiètent, beaucoup de gens qui s'informent, beaucoup de gens qui s'informent trop, et beaucoup de gens qui s'informent pas assez. Ce qui fait comme un mélange ensuite de comme ben une matante X va propager juste de la fake news à fond la caisse parce que c'est drôle, puis justement parce qu'elle n'a rien à faire de sa vie parce qu'elle est confinée chez elle, va multiplier encore ce phénomène de propagation sans contrôle d'informations non vérifiées.
Et Nick, ces gens de personnes-là que tu viens de décrire viennent de découvrir la puissance des médias sociaux. Alors qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie, ou ils ont peut-être juste été mettre 2-3 lignes dans Facebook juste pour faire bonjour à la famille. Là, ils découvrent que, hein, ils peuvent parler au monde au complet. Là, ça sort, ça blaste le monde, puis tu sais, il n'y a aucune étiquette, ils suivent aucune droiture dans quoi que ce soit. Là, c'est drôle.
Pour prendre une image un peu grossière, c'est comme des paysans qui arrivent en ville, qui sont pas familiers avec comment ça fonctionne et agissent avec leur approche. Qui est inadapté à la ville, dans ce cas-ci, pas parce qu'ils sont des personnes moins bonnes, mais parce qu'ils sont inadaptés. Et on vit en dessous d'une roche. Fait que oui, ces gens-là ont trop de temps, ils n'ont jamais fait du Facebook avant, puis là, ils font juste du Facebook tout le temps. Fait que ça fait des affaires un petit peu bizarres.
Ah, moi, j'appelle ça des intraterrestres. Ils sortent pas souvent, mais quand ils sortent, ça paraît.
Sorry, celle-là était trop bonne. Puis là, il aurait fallu ouvrir nos micros pour vous montrer à quel point on riait de tout ça dans nos, dans nos maisons confinées.
Ils ont vu vos faces.
Un peu.
Pas du tout.
En tout cas, pour revenir sur les applications, ce qui va être intéressant, justement, ce que disait Steve, c'est tous ces gens qui n'y connaissent rien obligatoirement avec le numérique, etc., c'est que c'est quand même à 90% des applications qui demandent du volontariat. Ça veut dire que c'est les gens qui vont devoir remplir le questionnaire, dire qu'ils ont été infectés et envoyer l'information, qu'elle soit anonymisée ou autre. Et donc, ça va être intéressant aussi de, pour commencer à avoir quelques tests à droite à gauche, d'utiliser des émulateurs, par exemple Android, et de simuler des connexions Android et de créer de fausses fiches et donc de fausses données qui pourraient perturber les chiffres.
Hey, tu voles mes punch.
Je le garde. J'ai pas fait exprès.
Mais non, ça va.
mais c'est sûr que les données vont se faire polluer. Ça, c'est clair. Puis il y a deux choses. Oui. Moi, le fait que les gens vont déclarer volontairement leur infection, je n'y crois plus. Parce qu'on a eu des gens qui sont revenus de la Floride au Québec et qui n'ont pas déclaré du tout leur infection.
Ils ont même menti à l'hôpital en étant malade, etc. Puis ils ont infecté les infirmières et tout.
Fait en partant, j'y crois pas, ça, la déclaration volontaire, parce que les gens sont malheureusement trop concentrés sur eux-mêmes. Puis là, ensuite, tout l'effet autre de tous ces clowns qui vont s'amuser à aller polluer ces données-là puis ils vont tout fucker la patente.
Hey, vite de même. Damien, merci. Tu viens de mentionner un buzzword. Écoute, ça sonne à mes oreilles. Chronique auditeur. Auditeur interne, auditeur externe. Tu as parlé de simulation. On est au mois de mai. Les applications commencent à sortir. Il y en a dont le développement n'a pas démarré. Il y en a qui sont en cours. Il y en a qui sont prêts de terminer. Tout le monde annonce que ça va bien fonctionner. Les tests. Des tests, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche? Quelle différence vous faites entre une donnée X, Y, lequel est le faux positif?
Ah, mais tu veux-tu pire que ça, Vince?
Puis vous pitchez ces données-là dans des organismes à gauche et à droite. Non, ça prend des tests avant. Vous allez récupérer probablement des vraies données pour vos tests aussi, là. Ces données-là, allez-vous les détruire? Allez, etc., etc.
Ils utilisent des données médicales existantes pour faire leur modèle de machine learning et autres présentement, là. Puis, ils n'en parlent pas trop de qu'est-ce qu'ils vont faire avec, qui a accès, comment ils gèrent, etc. En fait, il n'y a aucune spécification là-dessus. Mais pire que ça, je veux dire, tu parles de tester ces choses-là, puis le pourcentage d'efficacité un peu des applications. Tu sais, c'est quel pays? Je me souviens plus du pays, mais dans les plus gros taux d'utilisation, c'est 40%, je crois, volontairement. En bas de 60%, c'est totalement inutile. Australie, merci.
Australie, il me semble.
C'est 60% qu'il faut. Ça, c'est un point. L'autre point, à partir de toutes tes données que tu as...
Pendant que tu es en train de t'étouffer, c'est comme la notion d'immunité de groupe. À un certain pourcentage, ça sert strictement à l'exercice parce qu'on arrive absolument à rien. Donc, et maintenant que tu as l'air d'avoir repris ta voix...
OK. J'ai totalement oublié. Fait que passons au projet suivant.
Yes! Ben, on va dans ce moment-là, on va repasser parce qu'il y a une question sur le channel de YouTube sur le fait que il était posé à Damien, mais là, pour tout le monde répondre, le fait que le sabotage de ces applications-là, justement, comme tu mentionnais, par les émulateurs Android, et est-ce qu'on serait capable de détecter ce sabotage-là, puis dans quelle mesure, puis la question vient de moi, on serait capable, de dépolluer cette information-là, parce que ça ne sert plus à rien, c'est pollué.
Un exemple assez concret, c'est rien que le stop COVID. Il faut savoir qu'il y a deux pays qui, par exemple, dans Google Play, ont utilisé le terme stop COVID. Il y a la Géorgie et la France. Donc, des Français ont tapé dans Google « Stop Covid » et ils sont amusés à télécharger l'application qui pensait être française et ils ont râlé en disant « Ah, mais elle n'est pas traduite ». Le pays dont l'application appartenait a été obligé de dire « C'est normal qu'elle n'est pas traduite, elle est pour nos habitants de notre pays ». Rien que déjà là, dans les termes et les propositions de téléchargement, ça va être un complexe, ça va être compliqué pour que les gens comprennent où il faut télécharger. Je prends juste l'exemple de ce qui s'est passé en France. Aujourd'hui, le gouvernement a commencé à diffuser de la communication. Ils expliquent que dans les moteurs de recherche, il faudra taper « Stop Covid ». sans donner un lien exact, sans donner un accès où on peut télécharger véritablement le fichier. Ça va être la porte ouverte, hein, la possibilité de dire, tiens, va le télécharger là, c'est officiel, etc. Après, piéger une application, c'est aussi peut-être commencer par piéger le téléphone. Vouloir laisser, par exemple, le Bluetooth allumé, ça sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme diraient certains. Sans compter, après, on parlait tout à l'heure des tests, c'est Vincent qui en parlait. L'un des seuls pays à avoir fait un test officiel, c'est la Suisse. Et ils ont donné ça aux militaires. Ok, génial, ils ont fait des tests. Mais je prends juste Steve, qui est un ancien militaire, on va demander quand même à ces soldats d'avoir leur téléphone tout le temps à la poche, tout le temps connecté avec le Bluetooth. Ok, ça devient compliqué tout ça. Hein?
Ben là, si on parle, puis là, tu as amené le point important du militaire qui se promène en mission avec du Bluetooth activé. Là, on est vraiment dans une zone de big no-no, là.
Ben, il n'y a pas de nono parce que l'OPSEC est nullement respecté. Moi, ça, je freak ben raide. Depuis que je suis qu'il y avait, là, il est parti pour ça.
Je l'ai empêché de dormir hier soir.
Ah, oui, sérieux. Non, je ne suis pas à Tombouctou. Au Canada, ici, il y a très peu de respect pour la sécurité de l'information. Il y a un mauvais programme de sensibilisation à l'interne. Il y a un mauvais suivi de vérification et tout le monde se promène avec un téléphone intelligent ouvert, Wi-Fi, Bluetooth qui se respire journée longue. Fait que donc, ça, c'est un aspect. Fait que oui, parce qu'on l'a vu, là, il y a encore un autre exemple cette semaine d'une application aussi imbécile que de bière, puis ça documentait justement les quantités de militaires qui se retrouvaient dans des places
quand, cool, celle-là, ouais.
Appairie, un peu comme l'application Strava de 2 ans. L'application d'entraînement physique, que là, ça a mis des maps sur la map des bases militaires américaines secrètes que, oups, ils sont plus secrets. Fait que c'est là qu'il y a des gens qui ne voient pas plus loin dans l'utilisation quotidienne des appareils personnels dans un contexte de travail, parce que là, c'est tellement imbriqué qu'il n'y en a plus de dissociation. Fait qu'autrement dit, tout le monde se promène avec tout l'électromagnétique qu'on veut, que ça va partout. Fait que fini, il n'y a pas rien d'anonyme là, c'est clair.
Non, puis c'est assez grave au niveau militaire pour ça, on l'avait vu avec Strava, mais là, clairement, on a des problèmes de discipline au niveau des militaires eux-mêmes qui sont même pas capables de suivre leurs propres règles. Fait que ça devient un peu troublant. Cet aspect technologique-là, mais là, dans le cas de COVID en plus, puis on oblige les militaires en plus, parce que c'est comme ça.
Yes. Mais présentement, tout le monde font du service humanitaire présentement. Il n'y a rien de tactique comme les soldats qui sont en Lettonie se font écœurer par les Russes de façon active avec la guerre électronique. Mais là, en pays, ici, en temps de paix, on fait des trucs humanitaires, tu sais, ça reste là. Mais ça a un impact direct sur la vie privée. Puis c'est là que on n'entend rien parler de ça. Puis quand on apporte le point aux autorités appropriées, ils en font rien parce qu'ils voient pas la conséquence, encore une fois. Fait que c'est ça, là, qu'on essaie de sensibiliser les gens. Puis je dis tous, dans la population civile, ça rentre une oreille, ça sort par l'autre. Là. C'est ça qui est dommage.
Ils voient pas l'impact parce qu'il y a pas d'analyse de risque de fait sur quelque chose de plus long terme. Là. Il y a ça. Là.
Puis la réponse qu'on se fait servir souvent aussi, c'est quoi? Ah, mais c'est pas grave, ils ont tout pris chez Desjardins, là, j'ai plus rien à cacher.
Ouais, bon. on revient, mais ça revient toujours à la phrase de Schneier, c'est-à-dire c'est trop de gens en techno qui avaient rien à foutre. Ils ont inventé un module qui finalement, c'était une solution qui cherchait un problème. Puis pouf, on a créé quelque chose. Puis là, on a créé un monstre.
Ouais. Tu sais, je veux dire, ils ont même décidé d'ajouter du machine learning là-dedans pour se trouver une idée de faire du machine learning, parce que techniquement, sans le machine learning, ça fonctionne. Wow. Ce qui fonctionne pas fonctionne pareil.
Okay.
c'est triste hein, de vivre là-dedans.
Ben, ça va savoir que si ça ne fonctionne pas, effectivement, c'est un big waste of time, puis encore un waste of money. Là, pis,
ouais. Ce que je voulais dire tantôt que j'ai retracé, c'est que ce qui est superbe pour les entreprises qui développent les applications présentement, c'est que les niveaux d'efficacité vont être mesurés après. Fait que là, dites-vous que peut-être que la deuxième vague va être petite, l'application va avoir fonctionné, il va avoir plus d'argent, il va avoir plus de subventions, ils vont se penser encore plus bons.
Ah. Les chiffres vont être plus faciles à trafiquer aussi.
Elles sont pas mal déjà trafiquées. Les mesures de calcul changent tous les 2-3 semaines. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut avec les chiffres rendus là.
Ouais, mais ça, tu sais, c'est exactement la même analogie qu'en sécurité. Tu sais, c'est, on a réussi parce qu'on n'a pas, on n'a pas eu d'attaque. Mais toute cette notion-là, elle est très, très, très difficile à mesurer. Là.
Parlant de ça, regarde-moi pas.
Moi, je connais personne. C'est un débat ouvert et animé.
Parlant de ça, Nick, là, justement, le, ça fait 3 semaines présentement que toutes les institutions au pays sont sous attaque active d'éléments de menace extérieurs qui essayent justement de mettre la main sur le Saint-Graal, des formules de recherche là, qu'il va trouver. Et ça pitonne assez vite. Là, puis c'est des bonnes attaques, c'est des attaques très sophistiquées, comme rapportait là, de gens qui sont dans le dossier à Ottawa. Puis c'est, ça fait des mois qu'on l'avertit que des agents étrangers s'attarderaient à ça, ben là, c'est réalité. Ils sont dans les réseaux. Fait que prochaine étape, ils vont aller vers le maillon toujours le plus faible. Et si c'est comme on dit, les applications qui deviennent des maillons faibles, en plus qui sont utilisées dans les réseaux que tout le monde travaille de chez eux, que c'est des maillons faibles, ben, ça sera pas trop dur, là.
Pour apprendre un peu ça, puis une question qui avait été posée sur le canal YouTube, ça serait, il faisait référence à du sabotage de pays étrangers justement pour forcer un confinement prolongé dans certains pays justement sur la base de ces informations-là. Oui. Et sachant que toutes ces bases de données-là, que tous ces gens collectent-là, innocemment, on va dire comme ça, s'ils sont facilement hackables, parce que clairement les gens n'ont pas tout à fait l'énergie nécessaire pour protéger adéquatement ça, puis en plus ils vont utiliser des systèmes pour aller plus rapidement, puis bon, ils sont humanitaires, fait que si toutes ces données-là qu'on peut probablement croiser assez facilement avec d'autres données de d'autres bases de données, donc on est capable de suivre toute la population, c'est juste un désastre qui s'en vient.
Ouais, exact. Puis le point qui est élevé là, par rapport que le machine learning peut servir dans les applications, en fait, c'est oui puis non, dans le sens que le machine learning va servir du côté serveur quand ils reçoivent une donnée d'un infecté pour guesser où ce que la personne va être. Mais dans l'application sur le téléphone du machine learning, pas vraiment, dans le sens que c'est le Bluetooth qui détecte l'autre Bluetooth à côté. Là. Fait que je vois pas qu'est-ce que tu peux guesser de plus quand tu reçois un signal de la machine à côté de toi qui dit « Salut, je suis là ». C'est ça.
Ben, c'est des pings. C'est juste de ping. L'autre, l'appareil A ping l'appareil B.
Oui, oui, exact. Là, c'est vraiment juste un. Ouais, c'est en plein ça. C'est un ping puis un broadcast. Le machine learning est effectivement utile, mais pas pour faire du tracing, pour faire de la virologie et autres, qui est déjà utilisé justement par les initiatives. Je veux dire, il y en a des centaines d'initiatives. Là. Ouais. Mais, une que j'ai regardée, c'est elle de Bill Gates qui a retracé, je me souviens plus, quel virus en Afrique, puis ils ont guessé avec le machine learning dans quelle région que ça se déplace, etc. Effectivement que ça marche. Là. Mais dans ce cas-ci, sur l'application en tant que telle qu'on parle, non. En arrière, dans le back-end, peut-être. Mais pour que ça soit efficace, comme le gouvernement puis Mila a dit, il faut 60 % des participants pour que ça soit utile. C'est ça. C'est tout ce qui est plate. Et on peut passer à... Voulez-vous parler de Mila, l'application, ce qui a fait faire des cauchemars
à Steve toutes les nuits? Parlons-en, parce que sur le channel, ça en parle. Puis voilà. Je pense que ça vous brûle. Là. Allez-y.
OK. Bon. Ne riez pas tout, ça va être drôle.
Vas-y.
OK. Mais en gros, le problème avec Mila. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est aller lire, puis on le mettra dans les show notes. Là,
envoyez sur le chat.
Tu l'as sur le chat, cool.
Oui.
C'est le white paper que Mila a développé. Donc, à partir de là, évidemment, on est allé lire ça. Et c'est ça, on n'a pas dormi bien, bien. Le problème avec l'application, c'est que, pas l'application, avec leur concept, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire une bonne analyse de risque, pas complète, mais ils en ont fait une. Et dans le white paper, il y a une section qui décrit les problématiques et les attaques possibles. Le brog, c'est que cette section est dans la sous-section. Voici les éléments que nous ne développerons pas et qu'on ne mettra pas en place et qu'on s'en fout finalement. Donc, la majorité des attaques qu'ils décrivent sont dans la section « pas le temps de le faire ». Ça se peut que ça change parce que, comme je vous ai dit au début, ils se sont fait dire de recommencer leur truc récemment. Donc, on espère que le tout soit changé. Mais en gros... ça inaugure pas très, très bien, là, si on peut dire. Donc là, je vais juste réouvrir le super document.
Ah, je vais l'amener, ça pas long.
Tu cherches toi aussi, hein?
Ben non, je vais le diffuser.
Ah, OK, tu le diffuses, c'est bon. Parfait. Donc, un peu de tout ce qu'on a dit dans les attaques au début de ici présentement, c'est dans la section 2.7, les risques résiduels. Donc, c'est les risques restants qui ne seront pas partagés. Page 27, cher Steve.
Yes, sir.
Donc, à partir de là, ce qui est le fun, c'est que c'est les risques qui restent dans l'application et qui, ne, techniquement, présentement dans la version de ce papier, ne sera pas protégé. Donc, on parle du... monte un peu là, à Vigilant 2.7.1. Yes! Vigilant! Donc, une application où ce qu'un attaquant va chercher des individus qui sont infectés avec soit de la triangulation, désolé, pour finalement stalker le monde qui se serait infecté, parce que, comme j'ai expliqué au début, puisque la majorité des algorithmes vont faire une recherche locale dans où ce que tu étais dans ta propre ville et non pas, mettons, au plan du pays, etc., il est quand même possible d'aller chercher qui que tu as rencontré. Évidemment que l'application n'offre pas cette feature-là. Mais comme je pense que Steve ou Damien a dit, ben une version dans un émulateur ou si vous voulez simplement déboguer l'application, l'ouvrir, la modifier, etc., ou encore installer des outils qui s'injectent en mémoire pour contrôler les applications, ben on peut faire ce qu'on veut avec l'application, dont toutes les belles attaques qui savent qu'ils existent et qui malheureusement ne sera techniquement pas contrôlées. Ensuite de ça, ben, on a le concept d'une seule personne qui va, justement, ils décrivent le concept que l'application va être craquée, modifiée, etc., pour finalement faire la fausse donnée vers le serveur ou vers les autres Bluetooth alentours. Donc, ce qui est intéressant dans le concept des algos, c'est que tu peux pas savoir qui t'a rencontré. Parce que dans l'algorithme, après, je crois, peut-être une demi-heure, une heure, ou peu importe, un certain délai, ben la donnée est effacée. Donc, tu peux pas savoir qui que t'as rencontré. Puis quand tu te fais dire que tu as rencontré quelqu'un qui est infecté, tu peux pas retracer qui est cette personne. Mais en modifiant une application, que tu rajoutes une ligne qui dit ben dump dans un fichier toutes les personnes que j'ai rencontrées avec leur ID de Bluetooth, tu es capable de retracer quel ID, à quel endroit, et si tu retournes sur les lieux, évidemment, à un moment donné, sûrement, la personne va réapparaître. Si tu te promènes dans les rues et autres en scannant, je veux dire, du war driving de Bluetooth ou de Wi-Fi, c'est le même concept. Donc, c'est possible de stalker et de faire beaucoup de fun avec ça, d'envoyer de la fausse information vers les serveurs, parce que évidemment, si mettons que tu réussis à dire que tu es infecté, ben tu peux dire à tout le monde à qui tu te promènes que tu es infecté. Fait que tu vas, mettons, t'installer un coin de rue, sniffer toutes les Bluetooth qui passent pendant une journée, puis tu t'organises pour être infecté ensuite ou de broadcaster un faux message, etc. Tu sais, il y a tellement de manipulations à faire que ça n'est malheureusement triste, là.
Patrick, celui-là, là,
ouais.
Celui que tu montrais, ça ressemble étrangement, si tu veux mon avis, là. Mm-hmm. T'es pas obligé de remonter, Steve, là. Tu le publieras. Je viens de le lire, là. Ça ressemble étrangement à une clause de contrat pour se dégager d'une responsabilité si quelqu'un avait une version complètement craquée, mais ils mettent ça dans un white paper. Écoute, c'est
ah, mais moi, je trouve ça magique. C'est comme, vous voulez briser notre système qui marche pas vraiment encore? Ben, voici comment.
En tout cas.
J'aime pas le truc par obscurité, évidemment, mais pour une application qui a personne qui a pensé à la sécurité, qui travaille en sécurité, qui fait des tests de sécurité, c'est un peu méchant comme approche, me semble.
En tout cas. Ça flash pas, là.
Non, pas bien. C'est vraiment dénudé. Puis ce qui nous faisait friquer aussi, là, c'est vraiment là, quand on arrivait un peu plus bas, Tiens, qu'est-ce que tu parlais tantôt? Je vais te laisser composer avec ça ici, là. Location History Attack, c'est un peu ça que tu parlais, Pat.
Oui, exact. Mais eux, ils vont plus loin parce que ils déclarent que leur système fonctionne avec des courriels. Tantôt, Vincent, tu disais, ouais, mais tu sais, comment qu'ils vont communiquer que tu es infecté? Ah, par courriel. Donc, ils ont une boîte courriel à quelque part, ou des boîtes courriel, qui contient toute l'information de tous les infectés et de tous ceux qui veulent valider s'ils sont infectés.
Donc, le coffre-fort est là. Allez,
c'est exact. Et c'est de la manière que c'est écrit. Il n'y a pas de S à serveur. Donc, c'est un single point of failure d'un côté de disponibilité, mais aussi de confidentialité, comme tu viens de dire. Là. Voici la boîte de Pandore. Là, s'il vous plaît, veuillez la prendre. Elle est ici. Ça fait assez peur. Ce que tu soulignes, c'est l'analyse qu'on a fait des algorithmes qui sont proposés parce que finalement, Mila a décidé de faire c'est leur partenaire. Tantôt, certaines personnes parlaient qui était impliqué dans le développement de l'application de Mila. Mila est là seulement parce qu'ils sont populaires puis ils ramassent de l'argent. Parce que c'est pas eux qui développent l'application, c'est eux, ils font le ML en arrière, la machine learning. L'application est développée par Libéo à Québec. Si je veux vous faire peur un peu, Libéo a zéro personne en sécurité, on n'a jamais eu, on n'aura techniquement pas, on a déjà eu des discussions avec. Ils sont pas là pour ça. Eux développent une des trois layers de Bluetooth qui vont être utilisées. Dans les trois, tu as Google, Apple, NHS, puis le MixNet. Ce qui est intéressant du Google, Apple, c'est que l'API est inclus direct dans le core du téléphone. Donc, c'est un peu plus dur peut-être d'aller hijacker les messages puis de polluer le tout. Mais ça reste que si tu installes l'application, tu fais du man in the middle dedans, tu la décompiles, tu changes le code, tu la recompiles, même si la donnée est signée par le téléphone, que tu peux pas changer la signature, tu peux quand même changer le message avant qu'il soit signé, puis il va être signé par le téléphone. Fait que tu sais, il y a quand même sûrement une méthode là. Évidemment, on ne l'a pas testé parce qu'on n'a pas accès au code. Mais le MixNet, ce qui est cool, c'est qu'il utilise le concept du Tor, le réseau d'oignons. Fait que pour anonymiser un petit peu plus, il envoie la donnée via 2, 3, 4 layers de réseau avant que ça se rende au serveur principal. Je ne sais pas ce que ça peut changer si tu fakes l'application encore là une fois. Mais techniquement, live sur les messages qui se promènent, ce serait un petit peu plus dur là, à les récupérer ou faker les choses. Donc, ça fait beaucoup de problématiques majeures qui viennent ajouter de la non-efficacité, si on peut dire, dans ce système-là. Puis on n'a pas parlé du Bluetooth qui n'est pas efficace pour faire de la géolocalisation encore. Donc, ajouter ça par-dessus le tout, ajouter le fait que c'est développé à la dernière minute, qu'il n'y a pas personne en sécurité dans tout ça. Non, je pense pas que c'est une bonne idée à date, là. Je sais pas si quelqu'un pense autrement, mais...
Bon, non, je pense pas autrement, mais sur le chat-là, il y a quelqu'un qui dit d'aller lire à la page 24, la section 2.6. Il semblerait que quelque chose de drôle à y voir. Justement, ça parle de SOC 2.
Ah boy, j'ai oublié ce point-là. J'ai vraiment ri hier. Merci de me rappeler ce point-là. Ils disent, oui, en plein en haut de la page ici, que la sécurité de l'application va être faite via des protocoles tels que SOC 2, la certification. Dans un, ils savent pas c'est quoi SOC 2. De deux, SOC 2 a plusieurs niveaux de certification, donc lesquels, on le sait pas. Si c'est le premier, ils ont juste besoin de documenter des documents, de dire « Ah oui, oui, on va faire de la sécurité à un moment donné ». Si c'est le niveau 2, ça veut dire qu'ils ont fait le niveau 1, mais l'application sort dans un mois. Faire le niveau 1 prend à peu près 3, 6, 12 mois. Donc, oublie ça, le SOC 2 ne sera pas impliqué dans l'histoire. Mais ça, c'est une certification qui prouve que tu as fait le bare minimum. Là. C'est pas de la revue de code, des tests d'intrusion avancés, puis des... rien de spécial. Là. Ça fait juste dire que tu as un processus en place pour dealer avec des trucs que peut-être que tu as fait, puis peut-être que tu l'as fait comme faux, mais sûrement pas.
Ça prend de la donnée historique. Ça prend de la donnée historique pour pas offrir un résultat ponctuel, mais un résultat probant dans le temps sur ta bonne application des processus. Mais bon.
Mais comment faire ça quand ils n'ont pas pris le temps de prendre un groupe d'utilisateurs pendant 2-3 mois pour dire, hey, on va tester, mettons, 200 personnes, voir si ça marche. Tu vois, un peu comme le vaccin, tu sais, c'est ça le concept un peu.
Et à date non plus, je lis pas ou j'entends pas de parmi le reste là, qu'il va y avoir des spécialistes en sécurité d'information qui vont y voir à ce que ce soit bien implanté.
De ce que j'ai su, parce que je pense pas que ce soit dans ce document-là, il y aurait une équipe de pentest qui a checké le code, mais ils ont checké le code qui est déjà plus le bon code, malheureusement. Je sais pas s'ils vont le revérifier.
Okay.
Je sais le nom de la compagnie, je ferai pas de name drop là, mais c'est pas vraiment une compagnie qui fait des... qui sont réputés faire des tests d'intrusion tout court, donc c'est mitigé. Mais on n'a pas besoin de tests d'intrusion aussi, on a besoin d'une revue de code. Donc déjà là, on est dans le champ, c'est pas ça la bonne approche, parce que c'est vraiment de la revue de code qu'il faut mettre en place. Ce qui est intéressant pour avoir parlé à des personnes au gouvernement et dans certaines entreprises de consultation, c'est qu'ils sont en deuxième tour de discussion pour faire de la revue de code finalement. Quand est-ce que ça va arriver? Là, c'est dans un mois qu'ils disent que l'application arrive. Une revue de code d'un truc compliqué de même en moins d'un mois. C'est ça. Hein? Habituellement, une revue de code, c'est du 20 à 40 jours minimum. Là.
Fait que... À vous écouter, il va y avoir un vaccin avant une bonne application, non?
Non.
Ouais.
Ça va s'amplifier, ouais, je ne veux pas être défaitiste, là. Mais il y a la deuxième vague qui va venir frapper là, quelque temps, mois de juillet ou août, là, d'après moi. Là. Puis, parce que tout le monde va se co-copiner. Puis là-dessus, ben, on va faire cet effet. Fait que l'application risque d'être utile rendue là.
S'il y a assez de monde pour l'utiliser, mais ouais, en même temps. Fait que non, c'est ça, c'est pas super. Donc, c'est ça. Dans le tout, on a les quelques experts là, de Google, Facebook et autres. Mais ça, c'est pour le côté machine learning. Pour le Bluetooth, c'est l'IBO. Il y a aussi c'est ça, la compagnie de pentest qu'on n'est pas sûr. D'autres compagnies de pentest essaient de le faire. Donc, ça tourne en rond. On n'est pas trop sûr comment ça marche. C'est fait extrêmement à la dernière minute. Puis comme vous voyez, ben, les risques qui ont été énumérés, qui sont pas tous les risques possibles, évidemment, là. Ça, dans la section « Nous touchons pas à ça ». Ça couvre pas mal le tout ici, mais allez lire le document, c'est évidemment intéressant. Puis ce qui est cool aussi, c'est de voir qui travaille sur le document et le code, parce que leurs noms sont dedans, les courriels et tout, donc si vous voulez vous impliquer, etc. Je sais qu'on a une initiative, moi puis une autre personne que je connais aucunement, on est sur le Slack de Mila, on essaye de pousser pour faire de la sécurité. Il y a quand même eu une controverse là. La première fois, je leur ai dit de vérifier la sécurité. Ils m'ont répondu qu'il n'y en avait totalement rien à foutre. C'était dit dans des mots un petit peu mieux, mais quand même très, très, très...
Dans le même sens.
Ouais, ouais. C'est... Disons que la personne n'était pas très contente que je leur dise que c'était pas super comme truc.
J'ai un feedback justement à la part, tu parles de ça.
Ouais.
Rappelle-toi l'autre organisation, là, c'était quoi déjà là? En tout cas, je les ai invités la même chose, là, qui était c'est un consortium justement à Québec, là, faudrait que je retrouve le nom. Puis qui eux autres aussi, là, ils voyaient pas de problème avec la sécurité de leur site et de l'information qui est partagée sur le site web. Et ils m'ont souhaité bonne journée. Ils voulaient rien savoir qu'il y ait de l'implication ou quoi que ce soit. Ils s'engagent à le faire, ils s'engagent à rectifier la situation, mais ils veulent pas prendre de détails de quoi que ce soit. Fait qu'ils c'est des house qu'ils veulent faire, ils se disent autonomes dans tous les aspects. Tu sais, c'est triste.
Exact.
Excuse, ouais. Patrick, ouais. Tu coté en bourse, toi, cette compagnie-là?
Ben non, c'est une OSBL.
Okay, c'est une OSBL, mais la joke de ça, qu'on ne peut pas dropper les noms encore, c'est que le budget de l'OSBL s'en va à une entreprise privée qui appartient à du monde qui sont pas mal reliés à l'OSBL. Fait que, tu sais...
Je fais juste un petit dent en l'air comme ça, là. Tu mentionnes un SOC 2, un SOC 1, un SOC 2. OK, fine. C'est un beau produit marketing, si vous voulez mon avis. Tu sous-contractes, en fait, ton on va dire ta base de données ailleurs. Qu'est-ce qui attache ailleurs? Tu sais, l'auditeur indépendant là, qui va faire le SOC, là, il fait quoi, lui, avec la tierce partie qui détient des données ou le résultat des données, tu sais, c'est pas que ça devient complexe. Tout est prévu dans la réglementation, mais, tu sais, la mine d'or, là, T'es à côté, là.
Oui, puis l'affaire, c'est que t'as quoi? 1, 2, 3, 4, 5 organisations qui possèdent des parties différentes. Fait que t'as les données à gauche, t'as le courriel à droite, t'as le Bluetooth de l'autre bord, machine learning à l'autre, puis chacun doit utiliser l'information en une certaine partie. Puis ce qui manque dans le white paper, c'est justement c'est la gestion des données.
Et c'est quoi le partage des responsabilités?
Ben, partage des responsabilités, mais comment tu le gères? Là, ils s'en vont décrire des trucs assez techniques, mais ils disent pas je vais certifier de telle manière que la donnée est délitée.
Le compte.
Ben, qui a accès et comment y a-t-il accès?
Right? Le contrat devient important. Puis l'auditeur qui veut. Puis, tu sais, un SOC 2, c'est pas compliqué, là. Tu vas faire une déclaration de contrôle, là. C'est quoi que tu as envie de déclarer comme contrôle pour lesquels tu vas produire ton beau petit formulaire, ton beau petit prospectus marketing. Puis, c'est facile de nuancer pour tasser peut-être la portion data, mais en tout cas, je veux pas comploter, là, mais tu sais...
Non, mais t'as raison.
Il y a beaucoup de parties prenantes là-dedans. Là, il y a un réel danger, là. C'est juste ça que je veux dire, là.
Exact. Mais là, on parle de l'application. Une application, ça roule avec quoi en arrière? Des serveurs, des BD, des configs. Il n'y a aucune mention de comment ça va être géré. Qui va le faire? Comment que ça va être fait? Qui a accès encore une fois? Donc, on est un peu dans le néant. Puis, la majorité des applications, même si, mettons, ils réussissent à faire une belle revue de code qui n'a presque pas de bug dedans puis qui trouvent une manière magique qu'on ne peut pas polluer leur affaire ou de faire du stalking, etc., c'est quoi, 80-90% des manières de faire du bug bounty puis de trouver des bugs, c'est sur la config. C'est sur l'implémentation de tous ces éléments-là qui sont dans 4-5 organisations différentes. C'est compliqué, là, faire un projet sur 4-5 organisations qui ne travaillent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes processus. Fait que la probabilité d'erreur au niveau d'une config, d'un déploiement, de quelque chose est très, très, très grande.
Oui, il y a beaucoup de parties prenantes qui doivent être informées puis faire leur analyse du moment qu'il y a un changement quelconque pour s'assurer de... En tout cas, vous me voyez venir, là.
On va t'appeler pour le SOC 2, il n'y a pas de trouble.
Non. Mais bon. Oh, oui. Ça fait beaucoup de monde, mais ça devient complexe là, pour une gestion de changement de programme là, dans le cycle de vie. Etc. Mais bon.
On se comprend. Mais c'est ça. Pour la version Québec, ça ressemble à ça. Malheureusement, ben oui, on est pessimiste parce que c'est ça les données qu'on a. Puis en plus, pas nous autres qui les ont écrits, c'est eux autres qui les ont écrits par eux-mêmes. Donc, malheureusement, c'est ça qui est ça. Mais je pense que Steve et Damien en ont plein d'autres partout sur la planète à décrire aussi, si vous voulez continuer de m'essayer.
On vous a lancé la balle, là, s'il vous plaît, ramassez-la avant qu'elle tombe à terre.
Je suis la balle.
Steve, la balle.
Eh hey boy. Ouais, mais c'est ça là, je peux rouler là-dessus un peu. Là. Donc, on a appris cette semaine encore là, hier, que ça a été, je l'ai lancé sur toutes les plateformes, que il y a vraiment des problèmes avec les institutions de recherche. Tout ça, ça vient encore là des étonnations qui veulent avoir l'accès à la partie recherche. Tout ça, ça se passe dans un contexte de cyberguerre avec l'Iran, il y a l'URSS, excusez, la Russie, et après ça, la Chine à travers de ça, les États-Unis, en tout cas, tout le monde, vraiment, là, ça se coutaille, puis l'Israël, excusez, j'oubliais. Vraiment, des cyberattaques vers des éléments physiques, vers des éléments virtuels, là, c'est la vraie affaire, là, parce que là, en plus que la confusion, pourquoi j'amène ça, c'est que c'est la confusion présentement COVID, que c'est un cover. Et avec ce cover-là, ben il se passe bien des choses en arrière-plan. Et de plus en plus, ben ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Ça sort du Moyen-Orient tranquillement pas vite. Ça devrait venir commencer à cogner. Ben, on l'a au Canada avec les institutions de recherche. Et ça ne s'arrêtera pas là tant qu'à moi. Ça va venir davantage mettre un peu le feu un peu partout qu'on veut pas. Et ça va ralentir justement les ardeurs. Pendant que le monde se concentre sur le COVID, là, puis il se pose la question s'ils vont pouvoir sortir camper. Ben justement, les institutions en arrière, eux autres, là, ça marche pas. Et c'est là que j'ai un message à lancer, justement, à la communauté des sysadmins, puis des CIO, CISO et OSSI, le nom qu'ils auront pour la sécurité. c'est pas temps de baisser la garde. J'ai ramené encore là le vieux concept des infocomptes. Faut monter ça en infocompte Charlie. Ça veut dire de ramener ça avec un système de backup plus fréquent, revoir les procédures, commencer à penser à déconnecter les réseaux non essentiels, donc sans fil d'ailleurs, pour s'assurer de garder une étanchéité des réseaux essentiels. Mais encore là, on travaille avec un modèle, c'est-à-dire décentralisé avec tout le monde, chacun chez eux. Fait que tout le monde, chacun chez eux se font servir une multitude de spans. Je disais tantôt une documentation que c'est quoi, 770 000 courriels qui ont été envoyés dans une campagne pour être capable justement de piéger les gens, encore une fois, sous la prémisse de COVID-19. Pour que justement ils puissent gagner l'accès. Tout ça, encore une fois, sur un fond que il y a des universitaires qui ont trouvé le moyen aussi d'aller compromettre les clés qui sont échangées lorsque il y a une authentification qui est faite avec le Bluetooth. Je suis encore en train de trouver la bonne relation pour prouver que ça va être capable justement d'aller contaminer les résultats qui vont se faire justement avec qu'est-ce que Patrick expliquait tantôt dans le contexte de la COVID. Et les spams que je disais qui se promenaient justement, là, c'est avec un vieux virus qui revient à la surface qui s'appelle Zloader pour voler les informations bancaires des gens. Et ça se passe au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe aussi à quelques places. Et c'est pas encore là innocent comme méthode de faire. C'est des très bons courriels, j'en ai les exemples ici, et qui c'est à s'y méprendre encore une fois. Donc, la personne qui porte pas attention, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en cette période de COVID, parce que tout le monde clique partout, parce qu'ils sont nerveux, ils veulent encore une fois aller chercher la vraie réponse, l'information unique, l'information ultime, et les spams sont formatés en conséquence. Fait que, messieurs, dames, soyez prudents dans cette approche-là pour être capable d'en venir à bout.
Hey Steve, tu parles de phishing. Tu te souviens dans le document qu'il y avait une section phishing qu'on a bien ri aussi hier? On a oublié de le mentionner. Mais...
Ben oui, parce que la Mila s'attend justement qu'au moment du déploiement, puis ça, c'est ça qui nous a fait, en tout cas, on a eu mal au ventre hier en rire. Il décrit vraiment, voici, regardez, s'il se passe le premier déploiement, on s'attend qu'il y ait du phishing pour être capable d'amener les gens, non pas à downloader la vraie application, mais l'amener vers une autre direction. C'est certain que ça va se promener, ça, là, parce que surtout décrit dans le white paper, c'est décrit que faites-le comme ça, là, puis ça devrait mettre un peu d'assez de confusion, puis la mauvaise affaire va être téléchargée.
Exact. Ils décrivent le format que l'attaquant devrait prendre, ce qui est très, très drôle.
Ah, d'accord. Moi non plus, j'ai jamais vu ça avant, mais il faut croire qu'il faut évoluer pour voir d'autres choses, des fois. Mais c'est ça. Ça veut dire que il va y avoir, justement, des campagnes de faux, là, mais les services policiers, c'est pour là j'amène mon contexte d'attaque internationale, qui a des fois pas rapport, mais ça a rapport. Pendant que ces attaques-là qui se passent à travers les États-nations envers le pays, ben ça, les ressources sont prises pour éteindre ce feu-là. Et si un autre feu avec le phishing qui vient attaquer justement le déploiement des applications comme telles, on l'a pas vu en Alberta pourtant. Tu l'as mentionné tantôt, Damien, l'Alberta, l'application s'est téléchargée. Même affaire avec l'application canadienne, le 1er avril, il y en a une qui était en distribution. J'ai pas entendu ni lu qu'il y avait eu des faux qui se sont distribués. Mais il y a eu du spam. Encore là, le spam il est orienté beaucoup plus vers les versements de PCU. Puis je n'ai vu sur le Darknet des faux comptes de banque, des faux chèques, des trucs pour faire produire des chèques laser, couleur. Et là, tu fais ton dépôt avec ton appareil de cellulaire. Je veux dire, ils ont travaillé en recette, là, et pas pire. Mais j'ai pas vu encore là, il y a des messages officiels qui sortent, mais j'ai pas vu non plus qu'ils vont activement s'engager à arrêter ça rapidement parce que c'est encore en circulation. Fait que c'est des éléments comme ça que ça bouillonne, c'est live, puis faut encore là redoubler d'efforts.
Effectivement, faut pas sous-estimer l'imagination des malveillants. Mais en même temps, là, on parle beaucoup contre Mila, mais le papier lui-même est très intéressant parce qu'il est très vaste. Cela étant, c'est que toutes les applications de COVID sont tous problématiques face à ce genre de choses-là.
Ah, ils ont toutes les mêmes attaques, les mêmes concepts. C'est juste que celle-là est locale pour l'analyser plus qu'un autre dans un autre pays. Là. Mais le risque est égal partout. Là. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est assez terrible. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Parce que je pense qu'on a assez battu le sujet. Le sujet est peut-être bien mort pour cette fois-ci.
Ben, j'en aurais un, Nick, là, c'est de, encore là, à l'auditoire, propager la bonne nouvelle. Dites-vous que c'est avec le gros bon sens, je crois, qu'on va passer au travers beaucoup plus que des éléments techniques. écoutez, les directives de la santé publique sont pas là, je crois encore, puis avoir parlé avec beaucoup de politiciens puis de gens en arrière-plan, sont pas là pour prendre le contrôle de la société au-delà de nos libertés et des droits fondamentaux qui sont quand même pas à prendre pour acquis, mais bien à conserver tel qu'on est là pour améliorer notre condition. Oui.
Mais l'intention est bonne en arrière de tout ça, c'est juste que...
C'est mon point.
C'est comme on disait au début, tu sais, c'est pas parce que tu peux que t'aurais dû, puis il y avait rien d'autre à faire, fait que c'est ça qui se passe. L'intention est bonne, mais la technicalité, le détail, l'utilité, le concept de faire la géolocalisation avec du Bluetooth, que si vous installez une application, vous checkez la qualité du signal, c'est random. Là. Fait que,
exactement. Là. Puis je l'ai déjà
dit,
le Bluetooth, là, c'est du 2.4 GHz. Un faux micro-ondes va le déranger. Là, parce qu'un faux micro-ondes opère à 2.4 GHz. Fait que les gens, ne soyez pas surpris qu'à un moment donné, là, vous avez quelque chose qui est déstabilisant à l'entour de l'heure du midi qu'on fait à manger. Fait que c'est des éléments comme ça qu'on va voir, je crois, qui va venir à ce moment-là peut-être mettre un peu de brouillard dans le message, mais c'est là qu'avec un peu de gros bon sens, on va être capable de voir clair à travers de ça.
Yes.
D'autres choses à rajouter?
Mais moi, j'aimerais dire salut Damien, t'es vraiment beau quand tu bouges pas de même.
Ouais, je pense que ta connexion a rendu l'âme, il est juste figé dans cet état-là, c'est particulier.
C'est très drôle.
Dans ses pensées.
Et installer Internet d'Europe encore, là, ça y apprendra. Oh, il est double. Ah! On parlait de toi justement, on pensait que tu avais encore switché sur l'Internet de France. Là. C'est comme voyons.
Je ne dirai rien.
On travaille
à la merci. Damien, tu étais sur Netscape 2.0. Là.
C'est ça. J'ai ma roulette de VPN qui a sauté parce qu'il m'a détecté quelque chose qui ne lui plaisait pas dans ma machine. Quand je me suis connecté, d'ailleurs, Nicolas, je vais te l'envoyer. Hop. On n'est plus connecté là.
On est encore live, là. Fait que
on est très choyé de t'avoir deux fois, Damien.
D'accord. Ah, deux fois? Ah, merde. Ah, c'est pas de chance. non, rien. C'est parce que je sécurise comme je peux mon matériel et les connexions. Mon VPN a sauté. Parce qu'il a détecté un truc bizarre. Voilà, c'est tout. Tout va bien. Je suis un peu paranoïaque, pardon.
Yes.
Bon, ben, ça a comme tombé mort. Damien.
C'est un excellent épisode.
Oui. Ben, Damien, tu arrives justement à la fin. On me demandait voir s'il y avait d'autres réflexions qui restaient pour clore le sujet, puisque tu as raté quand même près un bon 10 minutes de la conversation. y a-t-il des aspects peut-être plus européens ou mondiaux qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent que tu crois qu'il serait important de discuter?
Ben, écoute, pour le moment, ce qui va être intéressant, c'est de voir des pays comme la France, qui a eu énormément, comme à Québec, énormément de gens qui se sont dit « on craint ce genre d'outils parce que quels vont être l'avis des données qu'on va fournir, comment ça va être sécurisé ? Est-ce qu'effectivement, comme disait Steve tout à l'heure, mais comme Vincent, Richet, toi, Patrick, la durée de conversation et de conservation ? Et puis voir aussi, parce que l'intérêt de ce genre d'application, c'est l'intérêt que vont en avoir les gens de l'utiliser. Si c'est comme à Singapour, où tout le monde a crié que ça avait super bien marché, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait simplement une personne sur 8 qui l'utilisait, aucun intérêt. Si c'est pour se retrouver comme dans des pays comme l'Inde, où on a dit « oui, non, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser », mais on se rend compte qu'on peut plus rentrer dans les magasins, que tous les membres du gouvernement sont obligés de l'installer. Voilà. Est-ce que ce genre d'application est en train de nous transformer en un monde orwellien, hein, 1984, ou est-ce que c'est vraiment un outil qui va nous aider? Voilà, c'est ça. C'est faut-il avoir confiance? Bon, moi, de notre côté, maintenant que je suis là depuis quelques temps, j'ai eu la chance aussi de vivre la poursuite d'un malade avant qu'on parle de confinement et d'application. Hein, souvenez-vous, au mois de mars, ce malade qui a été poursuivi dans tout Montréal d'un point A à un point Z où on pouvait suivre minute par minute comment on le chassait, en fait, dans le métro, dans la rue, etc. pour savoir qui l'avait pu rencontrer. À cette époque-là, on parlait pas encore d'application, donc ça prouve qu'il existe des moyens qui permettent de nous suivre avec beaucoup moins à première vue d'appointance et d'intérêt pour notre vie privée. À suivre. C'est malheureusement la seule chose qu'on peut dire, en tout cas de mon côté. Hein.
Exact. Puis je pense que dans des certains derniers mots de l'épisode, la phrase que tu as dit au début, Steve, quelque chose de temporaire et très, très, très souvent, voire toujours permanent. Puis surtout quand c'est un projet gouvernemental ou une demande gouvernementale, on a juste à regarder nos taxes et plusieurs autres choses. Yep. C'est toutes des choses qui sont sorties d'une crise et qui sont là encore 60 ans après. Là.
Malheureusement, oui. On va travailler pour que ça soit pas permanent, justement. On a encore l'opportunité de dire...
Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est tellement une grosse porte ouverte vers du permanent et vers, justement, comme Damien dit, de...
Les élus patates, ils s'engagent de ne pas maintenir ça permanent. Fait que moi, j'ai les encore en bonne estime, puis je vais continuer de les écrire, puis commencer à faire des invitations à tout le monde qui écrivent à leurs élus, puis le faire part, que c'est pas ça que vous voulez comme société.
Mais tu sais, même si on retourne dans le passé avec le concept du leak de Facebook avec Cambridge Analytica, qui ont signé tous les papiers disant qu'ils ont tout supprimé, puis qu'un an ou deux après, les données étaient encore sur des machines, puis ça a leaké sur des, je sais plus où, sur le web. Il y a beaucoup de dangers avec ça aussi, parce que tu sais, si le serveur de courriel qui contient toutes les données, quelqu'un l'ouvre, cette boîte de Pandore-là, c'est, même s'il désire signer puis officiellement déliter les données, si quelqu'un les vole puis les fout sur le black market, désolé, mais ça se supprimera jamais d'Internet. Là.
Tu me fais penser, j'ai oublié ce point-là tantôt, il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre, « Ah, moi, je veux jamais, jamais, jamais avoir cette application-là sur mon téléphone. » Puis là, tu lui poses la question, « T'es abonné à combien de médias sociaux ?» sur ton téléphone qui sont activés en même temps. Ah, mais là, c'est pas pareil. De quoi c'est pas pareil? T'as Google Home, t'as Facebook, t'as Twitter, t'as Instagram, t'as tout ça qui roule, toi, là, en même temps, puis là, t'es en train de me dire que l'application, elle vaut pas de la merde. Non, non, t'es un peu, on comprend pas, là, c'est quoi la vie privée, je pense, de personne. Fait que c'est là que faut que les gens amènent un petit peu de compréhension, là, que quand vous utilisez les médias sociaux en temps réel, live, là, puis vous vous demandez pourquoi que vous jasez de quelque chose, puis d'un coup, ça apparaît sur votre page parce que vous n'avez jasé, ben c'est là que l'application qui est proposée pour faire la distanciation et aider le gouvernement à prendre des décisions, ben c'est pas ça, ce type d'application-là. Fait que juste pour mettre les choses en perspective, ce qu'on vient de jaser ce soir, ben c'est une application pour aider les autorités sanitaires à prendre les meilleures décisions puis que ça aide à travers de ça. Ce que vous faites avec les médias sociaux, ça brime votre vie privée et votre liberté un petit peu plus à date.
Énorme. Puis... je pense qu'on en parlait dernièrement, puis peut-être même sur un des derniers podcasts, il y a un grand manque de compréhension et d'éducation au niveau de qu'est-ce que la vie privée, qu'est-ce que ça implique. Parce que justement, on l'entend tout le temps, j'ai rien à cacher, mais c'est pas ça le concept de la vie privée. Même si t'as rien à cacher, t'es un effet de groupe. T'sais, si tout le monde commence à tout diffuser, ben ça peut ouvrir la possibilité de voir les informations de quelqu'un d'autre. Pis c'est ça le bug aussi dans l'application du COVID. Quand tu es capable de tracer quelqu'un d'autre parce que tu sais que tel autre élément est infecté, etc., tu peux faire du tracing back, même s'il n'est pas volontaire. Donc oui, il y a un gros manque, il y a beaucoup d'éducation à faire. Je veux dire, on a fait des posts sur Facebook à propos de la caméra thermale. Ça a dégénéré total parce que le monde... Tu comprenais pas le concept de qu'est-ce que la vie privée. Puis, c'est juste la température, on s'en fout. Évidemment qu'on s'en fout que c'est juste la température, mais c'est pas ça le point. C'est le fait que là, il y a une caméra, là, il y en a une autre, là. Après ça, ils ont accepté une caméra, faisons d'autres choses. L'application qu'on parle présentement de COVID, c'est le même concept. C'est exactement ce que Damien vient d'expliquer. C'est une porte vers plus de choses qu'on veut pas. Ouais.
Et voilà.
Ouais, donc sur ça, on va clore l'épisode. Messieurs, merci. Ça, je crois, alimenté. On a vu sur le canal YouTube, les gens ont beaucoup apprécié. On a eu une bonne participation aussi. On a battu le sujet. Je pense qu'on doit le rebattre parce que c'est sûr qu'il va revenir en zombie de toute façon.
Absolument.
Donc, on n'a pas fini d'en parler. Je pense que de toute façon, cette pandémie-là était la première qui a été gérée de cette façon-là. Elle ne sera sûrement pas la dernière qui va être gérée de cette façon-là. On a changé de façon permanente nos sociétés. Donc, on aura beaucoup d'autres occasions à discuter de comment la vie privée est protégée ou érodée dans ce genre de choses. Mauvais anglicisme ici, malheureusement. Pour ceux qui aiment beaucoup rire du fait que je parle pas vraiment un vrai français.
Nick, parle français. Allez-y.
Et de toute façon, Patrick est encore plus puissant dans son nom parler français que moi. Fait que, s'il vous plaît. Bref, sur ce, bonne semaine au prochain épisode. Merci. Merci à vous tous.
Richer, le
ciao, ciao.
Richer, fais-nous un out.
Over and out.